Chapitre 7. Il marche dans la galerie de l'évolution. Les animaux empaillés sont disposés en file indienne, des plus petits aux plus imposants. Comme si l'évolution ne s'accomplissait que sur le seul critère de la taille. À cause des billes de verre qui remplacent leurs yeux, les bêtes taxidermisées ont un regard fixe et vide. Alice Kammerer guide Benjamin Wells dans le dédale de l'immense bâtiment. Ils descendent un escalier qui mène aux caves, puis s'engagent dans une enfilade de couloirs. Il y a de la poussière en suspension. Le ministre éternue.
Peu de gens viennent ici, déclare Alice. Au fait, tu ne m'as pas dit comment avez-vous pu identifier le visiteur ?
Diego Martinez, d'abord par son smartphone que la sécurité a retrouvé par terre, et ensuite grâce aux caméras de vidéosurveillance.
Il ne portait ni cagoule ni masque. Benjamin s'arrête, sort son propre smartphone et lui montre une vidéo où l'on voit le journaliste qui furette dans les allées du muséum. Le gardien a mis du temps à réagir et Martinez a pu s'enfuir avant l'intervention des vigiles. Ils reprennent leur marche et arrivent devant la porte 103. Le vigile en faction adresse une ébauche de salut militaire au ministre dès qu'il le reconnaît et les laisse passer.
Au moins, Diego Martinez n'a pas détruit la serrure. Il l'a opéré avec une certaine délicatesse, remarque la scientifique. On ne voit pratiquement pas de traces d'effraction.
J'ai consulté son casier judiciaire. C'est un ancien cambrioleur reconverti dans le journalisme à sensation.
Il a quelle tête, ton paparazzi ? Que je puisse le reconnaître s'il tente de me suivre ?
Benjamin ressort son smartphone pour lui montrer les photos d'identification judiciaire de Diego Martinez prises lors de son premier séjour en prison. Une de face et deux de profil. L'homme a une grande cicatrice en Y sur la joue. Probablement influencé par le nom aux consonances espagnoles et la nature des clichés, Alice lui trouve une ressemblance avec le trafiquant de drogue colombien Pablo Escobar. Elle sort une clé de sa poche, déverrouille la porte et allume l'éclairage du laboratoire. Au milieu de la pièce, le dossier métamorphosis est posé, ouvert, sur son grand bureau. Face à eux, une autre porte. Alice l'ouvre et entre dans le couloir qui débouche sur les trois portes A, D et N.
Voyons maintenant le reste de ta zone d'expérience, dit Benjamin.
Alice presse la poignée de la porte N et allume la lumière. Benjamin entre et découvre le cube de verre de 3 mètres de haut rempli d'eau et d'algues bleutées. Il s'approche, intrigué. C'est alors que surgit d'entre les franges végétales ce que le ministre prend de prime abord pour un singe. Un singe qui tient dans sa gueule une truite. Wells a un mouvement de recul, puis s'immobilise. Le primate face à lui plaque ses mains palmées contre la paroi. Il n'a pas de fourrure. Sa peau est grise, légèrement bleutée, luisante et lisse. L'être au milieu des algues étire un grand sourire, laissant échapper la truite d'entre ses dents, puis fait un clin d'œil qui semble amical.
« Voici le fruit de tes investissements », annonce Alice.
Abasourdi, Benjamin Wells ne quitte pas l'aquarium du regard.
« C'est ça, le monstre qu'a vu le journaliste ?»
Ce n'est pas un monstre, Benjamin, c'est un hybride singe-dauphin. Pour l'instant, je lui ai donné le nom savant de Macacus aquarius. Mais quand je m'adresse à lui, je l'appelle Eugène, le bien-né en grec.
Elle tourne la tête vers l'hybride et lui fait un signe de la main.
Coucou Eugène !
Le singe-dauphin élargit encore plus sa bouche aux dents pointues, comme s'il voulait faire bonne impression. Pour tenter de dissiper le trouble du ministre, Alice explique « Tout tient à l'écriture du codage génétique de la partie primate et de la partie cétacée. Comme dirait un cuisinier, c'est ma recette et ma manière de doser les différents ingrédients qui fait la réussite ou non du plat. Si ce n'est qu'ici, les ingrédients sont des bouts de chaîne ADN. » Ébahi, Benjamin Wells observe le singe aquatique qui paraît très content de voir un nouveau visage et qui lui envoie toutes sortes de signes de connivence.
« Je ne savais pas que tu avais... »«
Réussi !»
le coupe Alice.
C'est quand même étonnant. Enfin, je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que tu aies obtenu des résultats aussi rapidement.
Pas si rapidement que ça.
Ton Eugène a quel âge ?
3 ans, c'est un enfant.
Benjamin sursaute, interloqué.
Tu veux dire que ça fait 3 ans que tu me caches que tu as des spécimens d'hybrides vivants ?
Je voulais être sûre que Eugène soit stable dans le temps avant de te le présenter, se justifie la jeune femme. Cela aurait été dommage que je te fasse venir pour voir un cadavre.
Le singe dauphin continue de faire des signes de salutation en direction du ministre. Il semble très intéressé par cette nouvelle présence.
Ce n'est pas tout. Suis-moi.
Ils se rendent dans la pièce située derrière la porte marquée D. Le ministre de la Recherche découvre un immense cube de verre rempli de terre brune.
C'est ton potager pour nourrir Eugène ?
Alice frappe 3 coups sur la vitre. La terre meuble est parcourue de remous. Un visage à la peau couverte de poils noirs, fins et denses, apparaît. De nouveau, Benjamin Wells a un léger mouvement de recul. Une fois le choc passé, il s'approche et observe plus précisément la créature à l'intérieur du cube de verre. Il remarque qu'il s'agit encore d'un primate, mais dont les yeux et les oreilles sont de taille réduite, presque invisibles. Le nez, en revanche, est plus proéminent que celui d'un chimpanzé et terminé par une truffe rose qui remue. De longs poils plus clairs forment des moustaches au-dessus de la bouche. Mi-ouverte, celle-ci révèle 2 grandes incisives comme celles d'un castor ou d'un écureuil. À côté du visage se posent d'un coup 2 énormes mains roses dont les doigts sont prolongés de larges et épais ongles semblables à des griffes. Utilisant ses mains comme des pelles, l'animal se déplace dans la matière brune pour plaquer son flanc contre la vitre.
Il circule dans la terre avec la même aisance que l'hybride singe-dauphin grâce à ses mains palmées. Fascinant !
Benjamin peine à se remettre de son étonnement.
Et ce spécimen s'appelle...
Macacus terrarius. Mais pour moi, c'est Marie-Antoinette.
Une femelle, donc,
note le ministre.
Et qui sont les parents de ta Marie-Antoinette ?
Un babouin et une taupe.
Alice pointe du doigt la bouche de l'animal. Ses incisives plus longues lui permettent de fendre les racines et même de couper des substances dures comme du bois. Et grâce à ses pattes larges et griffues, il peut se mouvoir dans la terre meuble comme s'il s'agissait d'une boue semi-liquide. Elle se tourne ensuite vers le ministre.
Prêt pour la suite ?
Wells acquiesce d'un signe de tête. Ils ressortent. Alice ouvre la dernière porte, la porte A. Le ministre est immédiatement subjugué par l'immense volière et l'arbre qui s'élève en son centre. Sur une des branches est posée une sorte de fruit allongé, bêche très claire, que le ministre prend d'abord pour une banane géante. Alice siffle. Le fruit en question frémit. Puis il se fendille et s'ouvre, révélant un visage à l'envers. Les yeux, placés sous la bouche et le nez, battent des paupières. La fente s'élargit encore et 2 ailes se déploient. Elles sont formées d'une fine membrane claire, presque translucide, qui réunit les très longues phalanges des mains de cet étrange singe.
Je te présente Macacus aereus. C'est un hybride entre un gibbon, tu sais, ces singes sauteurs qui vivent dans les hautes branches, et une chauve-souris.
Et il n'a pas de bras ?
S'étonne Benjamin.
Comme un ange, tu veux dire ? Des ailes plus des bras ?
Posséder les deux n'est pas logique. Les mammifères n'ont pas 6 membres, mais 4.
Donc ce sont bien les bras, et plus précisément les mains, qui permettent de composer des ailes. Comme pour les oiseaux d'ailleurs.
L'étrange animal volait un peu dans sa cage, mais, limité par l'espace, vient vite se positionner devant les visiteurs.
« Si tu voulais qu'il vole, pourquoi ne pas l'avoir croisé avec un oiseau ?» demande le ministre.
« J'ai essayé avec des gènes d'albatros, mais les plumes posaient des problèmes insolubles. »
Benjamin observe le gibbon chauve-souris,
et trouve qu'il ressemble à un vampire, comme on en voit dans les films d'horreur du genre de Dracula, si ce n'est qu'il est de couleur claire, presque blanche.
« Mâle ou femelle ?»
questionne-t-il. « Joséphine est une femelle. Tu peux voir sur son torse qu'elle a 6 petits tétons. » Le ministre profite de ce que le volatile est proche pour l'examiner plus en détail. Il aperçoit un museau allongé, de grands yeux noirs sphériques et surtout 2 larges et hautes oreilles pointues dont l'intérieur est tapissé de striures.
« Tu peux lui parler ? Elle a une ouïe surdéveloppée. Tu peux même chuchoter. »« Bonjour, Joséphine. »
L'animal répond par une succession de petits cris aigus qui semblent un mélange de borborygme de singe et de piaillement d'oiseau.
« Elle dit quoi, là, ta Joséphine ?»«
Elle a faim. Je lui ai mis un distributeur de croquettes, mais elle aime les fruits entiers. Tu peux la nourrir, si tu veux. » Alice désigne une caisse remplie de pommes vertes. Le ministre en prend une et la tend à travers les barreaux blancs de la cage. Aussitôt, Joséphine attrape la friandise avec sa bouche et, s'aidant des longs orteils qui prolongent ses membres antérieurs comme des doigts, tient la pomme pour l'ingérer progressivement en mâchant d'un air satisfait. Quand l'hybride a terminé, elle pousse un cri. Le ministre lui offre une autre pomme verte.
« Je suis vraiment très impressionnée, » reconnaît-il.
Joséphine, rassasiée, volette. Le ministre est captivé par ce singe ailé. Joséphine n'a pas que des ailes, elle a d'autres attributs propres à la chauve-souris. Ses os sont creux, donc plus léger, et elle peut respirer en altitude malgré la pression. La nourriture qui l'attire est naturellement différente. Hormis les fruits et les fleurs, elle aime croquer de petits oiseaux ou de gros insectes, qui sont pour elle une source de protéines. Dans Métamorphosis, c'est tout l'être qui est repensé dans sa globalité. On est très loin du bricolage de membres greffés par chirurgie des romans de science-fiction des années 1900.
Et Joséphine bénéficie aussi du sonar qui permet aux chauves-souris de se repérer dans l'obscurité des cavernes, c'est bien ça ?
Demande Benjamin, toujours subjugué.
Exact.
De même, Eugène n'a pas que des nageoires. Il a aussi une peau lisse sans poils, comme celle des dauphins, et une capacité pulmonaire supérieure qui lui permet de longues apnées.
Et Marie-Antoinette ?
En plus de ses mains griffues et de ses longues incisives, elle a des vibrisses. Ses moustaches qui lui permettent de sentir les infimes vibrations du sol et un odorat qui l'aide à trouver sa nourriture. Elle aussi peut rester longtemps sans respirer dans ses galeries souterraines.
Et de quoi se nourrit-elle, ta Marie-Antoinette subterrestre ?
Des aliments trouvés dans le sol, essentiellement des vers, mais aussi de racines et de champignons. Joséphine ne quitte plus des yeux celui qui lui a offert sa nourriture préférée. Et puis les auteurs de science-fiction d'autrefois imaginez qu'on fabriquerait des humains hybrides pour disposer de nouveaux esclaves. Moi, je cherche simplement à en faire nos voisins ou nos successeurs. Le ministre scrute avec attention le singe volant aux longues ailes claires.
Si un jour les gens apprenaient ce qui se passe ici,
ils comprendraient mieux, l'interrompt Alice.
Ils seraient encore plus terrifiés et ils te détesteraient davantage,
répond Benjamin Wells, l'air sombre soudainement. À ce moment, le singe volant, ayant terminé de dévorer sa pomme, revient se placer devant le ministre. Il lui tend son pied articulé comme une main, paume tournée vers le haut, comme pour quémander.
« Je crois que Joséphine te prend pour un pourvoyeur permanent de pommes »,
s'amuse Alice. Elle considère que ce qui a été offert une fois lui est dû régulièrement. Le ministre et l'hybride restent longtemps à échanger des regards. Mais brusquement, Joséphine, impatiente d'obtenir sa pomme ou gênée d'être ainsi observée, passe sa jambe à travers les barreaux de la volière, attrape la main de Benjamin et y plante ses 2 canines proéminentes. Benjamin pousse un hurlement de douleur.
« Non, Joséphine, non !» s'exclame Alice. « Arrête ça tout de suite !»
L'hybride consent à lâcher sa prise et le ministre recule en tenant sa main endolorie. Alice lui indique un lavabo dans un coin pour laver sa blessure, puis disparaît un instant avant de revenir avec du désinfectant, une bande et des compresses. Avec la salive, ça peut s'infecter, il vaut mieux badigeonner d'alcool. Elle nettoie la plaie. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai attendu avant de te les présenter ? Je voulais mieux connaître leur psychologie, leur réaction en cas de présence humaine inconnue. Ce qui s'est passé à l'instant n'est qu'un ajustement d'éducation. Elle t'a mordu comme une fillette humaine pourrait mordre un adulte qui lui refuse des bonbons. Benjamin n'a pas l'air du tout convaincu.
Je ne pense pas pouvoir empêcher longtemps les curieux de venir après les révélations de ce Martinez. Il va falloir nettoyer ce laboratoire.
Qu'est-ce que tu entends par « nettoyer » demande Alice, méfiante.
Je vais envoyer une équipe de gens de confiance, des membres des services secrets qui savent gérer ce genre de situation et rester muets.
Et pour Eugène, Marie-Antoinette et Joséphine ?
Je ne vois pas comment les cacher. Il y aura toujours un journaliste qui voudra vérifier ce qu'était le monstre qu'a prétendu voir Diego Martinez. Le vigile en faction ne suffira pas. Tôt ou tard, un journaliste parviendra à le corrompre.
Ajoute des policiers, alors !
Plus on mettra de monde au courant, plus le risque sera grand que quelqu'un veuille voir ou accepte de laisser voir. Ne sous-estime pas le pouvoir de la curiosité. Plus c'est protégé, plus cela semble sérieux, secret ou suspect. Donc plus il y aura de gens qui auront envie de savoir.
Que proposes-tu dans ce cas ?
Alice pose le bandage sur la main de Benjamin.
Mes nettoyeurs vont démonter et enlever le matériel de ton labo. Ils vont détruire tous les documents. Quant à tes hybrides, eh bien, ils devront procéder à leur euthanasie.
Hors de question !
Bondit Alice, hors d'elle. Le ministre laisse passer un temps, puis reprend.
Je ne te dis pas d'arrêter tes recherches, au contraire, je vais te permettre de les continuer, mais autrement et ailleurs, pour travailler dans de meilleures conditions. Cependant, pour cela, il va te falloir quitter le muséum et faire le deuil de ces trois brouillons.
Eugène, Marie-Antoinette et Joséphine ne sont pas des brouillons, siffle Alice entre ses dents.
Le ton de Benjamin est sans appel.
Alice, ce sont des cobayes effrayants qui, lorsqu'ils seront découverts, et je t'assure qu'ils le seront un jour ou l'autre, te mèneront directement au lynchage ou à la prison. Si tu refuses ma solution, tu devras non seulement affronter la vindicte populaire, mais aussi la justice, et je ne pourrai pas te sauver.
Je n'ai pas peur,
lance Alice, bravache.
Si tu te retrouves en prison ou morte, tu ne pourras plus continuer tes recherches.
Morte ?
Relève la jeune femme.
Je te rappelle que tu viens d'échapper à un attentat,
clame Benjamin avec colère.
Mon collègue de l'intérieur m'a dit qu'ils avaient intercepté des échanges sur le Darknet. Plusieurs personnes veulent faire cesser tes expériences de manière radicale. Tu n'auras pas toujours la chance de tomber sur un assassin maladroit. Crois-moi, le mieux est de poursuivre tes travaux ailleurs.
Alice encaisse ses arguments, respire lentement quelques instants, puis marmonne.
Attends, si je comprends bien, où que j'aille, un sniper peut me tirer dessus ?
En effet, mais j'ai peut-être une idée. Il y a un endroit où tu seras en sécurité. C'est loin, mais fais-moi confiance. Je ne te laisserai pas mourir suicidé comme ton illustre ancêtre.